Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio SBS. Avec vous aujourd'hui, Grégory Pless. Je vais vous accompagner pendant une heure d'émission en français. Comme tous les samedis, on retrouvera notre rubrique rétro. Et aujourd'hui, on revient en 1947, au moment du mariage entre la reine Elisabeth II et le prince Philippe. On vous propose aussi aujourd'hui un nouvel épisode d'Europa Voice où il sera question de la résurgence du coronavirus en Europe qui affronte actuellement une cinquième vague. Et puis, il y a aussi une très belle exposition consacrée au peintre Henri Matisse qui vient de commencer à Sydney. On va en parler avec Anne Verdier, la conservatrice du musée d'art moderne à Paris. Mais tout de suite, c'est l'heure du journal. On y va. Les principaux titres de ce samedi 20 novembre 2021. Aux États-Unis, un acquittement qui fait scandale, celui d'un jeune homme de 18 ans qui avait abattu l'an dernier deux manifestants antiracistes. Il plaidait la légitime défense. En Australie, une série de manifestations prévues aujourd'hui, des manifestations anti-vaccins et anti-restrictions, des manifestations qui devraient se dérouler dans toutes les grandes villes du pays. Et puis, en France, la Haute Autorité de Santé vient de donner son feu vert à l'administration d'une dose de rappel du vaccin anti-Covid pour les plus de 40 ans. C'est un acquittement qui suscite la consternation aux États-Unis. Kyle Rittenhouse, âgé de 18 ans, avait tué deux hommes avec un fusil semi-automatique lors d'une manifestation Black Lives Matter dans la ville de Kenosha, au Wisconsin, durant l'été 2020. Le jeune homme au procès plaidait la légitime défense, un motif jugé valable par les jurés du tribunal qui ont donc décidé de l'acquitter. C'est le juge Bruce Schroeder qui a rendu le verdict.
All right, the motion of the defendant is granted. The charges against the defendant on all counts are dismissed with prejudice and he is released from the obligation of his bond. Anything else?
No. Carry on.
Thank you. Good day.
Parmi les nombreuses réactions, celle de l'oncle de Jacob Blake, un jeune tué par balle dont la mort avait déclenché les manifestations dans cette ville. Cet oncle, il a estimé que les trois personnes sur lesquelles Kyle Rittenhouse a tiré, l'une d'entre elles a survécu, seront toujours considérées comme des héros.
Anthony et Jojo will always be our hero. The other young man as well. Gage, I'm sorry. They deserve better, their families deserve better, this city, county and state and this nation deserves better.
Et l'évêque Tavis Grant, qu'on entend dans le son qu'on vient d'écouter, Tavis Grant, qui est aussi le directeur de la Rainbow Push Coalition, estime pour sa part que ce verdict démontre une fois encore que le système judiciaire américain crée de l'injustice.
We cannot rest until we get equal protection under law. We must use peace, protest, and civil disobedience to fight this fight. We will not fight it with violence. We'll fight it with the tools that have got us thus far.
Et toujours aux États-Unis, le président Joe Biden vient d'obtenir un vote crucial à la Chambre des représentants, la Chambre qui vient d'approuver son plan Build Back Better, une victoire importante pour le président américain qui intervient quelques jours après que son plan sur les infrastructures d'un montant de plus de 1200 milliards de dollars a lui aussi reçu le feu vert du Congrès. À Washington, les explications de Guillaume Nodin pour RFI.
Il aura fallu de la patience et de la détermination, mais les démocrates de la Chambre ont fini par voter ce plan auquel tient particulièrement la frange progressiste, c'est-à-dire la gauche du parti. Les démocrates centristes, eux, voulaient en savoir plus sur les conséquences budgétaires et fiscales du plan. Ce jeudi, le bureau du Congrès pour le budget a sorti ses estimations, ce qui a achevé de convaincre les derniers récalcitrants de la majorité. Malgré un discours d'une durée record du chef de la minorité républicaine de la Chambre, Kevin McCarthy, le vote a finalement eu lieu ce vendredi matin. Le plan qui prévoit notamment des mesures pour la scolarisation des enfants à partir de 3 ans et une extension des dépenses de santé va maintenant aller au Sénat. C'est sans doute la partie la plus difficile pour ce plan auquel tient Joe Biden. Les centristes du Sénat, et en particulier l'élu de la Virginie-Occidentale Joe Manchin, ne se sont pas formellement engagés à voter le texte tel quel et les négociations s'annoncent serrées. Alors que la Maison-Blanche souhaitait qu'il soit adopté pour la fête de Thanksgiving jeudi prochain, Joe Manchin, lui, évoque plutôt la fin de l'année. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Et encore un mot sur les États-Unis où la FDA vient d'autoriser l'administration de doses de rappel de vaccins anti-Covid à tous les adultes qui ont été vaccinés avec Pfizer ou Moderna. L'objectif, c'est de renforcer la protection de ces millions d'Américains vaccinés il y a déjà plusieurs mois, sachant que l'efficacité de ces vaccins diminue avec le temps. Dans son argumentaire, la FDA a rappelé que les bénéfices d'une dose de rappel en termes de protection contre le virus dépassaient très largement les risques très limités d'effets secondaires graves, notamment de développer par exemple une myocardite. Peter Marks, en charge des vaccins à la FDA, a expliqué en quoi consistent ces effets secondaires.
Myocarditis has a range from mild, which is basically something that is only almost a laboratory abnormality, to something that's really bad that you're in intensive care unit for. Just to give you an idea, we don't dismiss this. Don't get me wrong. We still take it as a serious thing. But I'm just trying to say that in terms of the spectrum of side effects, thankfully, it's a mild finding.
On quitte maintenant les États-Unis pour prendre la direction de l'Europe où le gouvernement biélorusse assure que les 2000 migrants évacués d'un camp de fortune à la frontière avec la Pologne avaient pu enfin passer la nuit au chaud. De son côté, la Pologne affirme avoir intercepté de nouveaux migrants qui continuent de tenter de franchir sa frontière. Et en attendant, dans ces deux pays, les ONG n'ont pas accès à ces personnes extrêmement vulnérables. Florian Siriex, du Comité international de la Croix-Rouge, lance un appel à un accès sans restriction à ces migrants. Il s'exprime au micro d'Anastasia Becchio pour RFI.
On parle ici de milliers de personnes qui sont encore dans différentes zones. Il y a donc les personnes qui sont désormais dans ces fameux centres logistiques. Mais il y a énormément d'autres personnes qui sont à d'autres points et qui, elles, continuent d'être dans des situations dramatiques. On l'a vu ce matin encore avec l'annonce de la mort d'un bébé syrien d'à peine un an. Il y a tous ces besoins en eau, en nourriture, en affaires chaudes. Il y a aussi des besoins auxquels on pense pas forcément immédiatement, mais ça va être les besoins en électricité pour recharger un téléphone portable, pour pouvoir parler à ses proches. Nos partenaires sur place nous ont récemment mentionné que, notamment dans ces fameux centres logistiques, il y avait des gros besoins de pouvoir installer des batteries de chargeurs pour téléphone portable pour que les gens puissent continuer à communiquer avec leurs proches. Au vu des besoins de toutes ces personnes qui sont en mouvement dans la zone, nous demandons un accès pour les organisations humanitaires afin que ces personnes puissent avoir l'assistance dont elles ont besoin.
En Australie, le seuil de vigilance reste élevé dans le territoire du Nord où des cas de Covid ont été recensés cette semaine dans des communautés aborigènes très isolées. Les autorités attendent aujourd'hui les résultats des tests des cas contacts, mais aussi les résultats des prélèvements effectués dans les réseaux d'eau usée, des résultats qui, d'après le ministre en chef du territoire, Michael Gunner, détermineront si le port obligatoire du masque dans tout le territoire est maintenu ou levé, comme c'est actuellement prévu lundi. On l'écoute.
The original source of the Katherine and Robson River outbreak is the woman from Queensland who had been in Victoria without telling us. But in a sense, that just makes this mystery even stranger, because we still don't know how it went from that small first cluster to no cases for 9 days, and then a second cluster that came from the first. There is a very real possibility that there are people in Katherine who have COVID and either don't know it or don't want to know it. And those people have then spread it in the community.
Dans l'état du Victoria, on dénombre aujourd'hui 5 décès et 1166 nouveaux cas, alors que le taux de vaccination des plus de 12 ans frôle désormais dans le Victoria les 90%. Ce seuil-là a déjà été franchi en Nouvelle-Galles du Sud avec plus de 91% de la population de plus de 16 ans vaccinés. On a relevé aujourd'hui 182 nouveaux cas. Enfin, je vous le disais dans les titres, la journée pourrait être agitée dans les grandes villes puisque des mouvements antifascistes, ont prévu d'organiser des contre-manifestations aujourd'hui en opposition au soi-disant rassemblement de la liberté organisé par des anti-vax et des anti-restrictions, des groupes qui, d'après quelques rapports de presse parus cette semaine, auraient été infiltrés par des groupuscules d'extrême droite. Des rassemblements de ce type sont prévus à Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Perth et Hobart notamment. Le vaccin anti-Covid, il en est également question en France. La Haute Autorité de Santé vient de donner son feu vert à la généralisation d'une troisième dose pour les plus de 40 ans. Voici ce qu'en disait hier soir le président Emmanuel Macron.
Accélérons en effet le rappel vaccinal. Et donc là, on encourage, il faut vraiment tous y aller, il faut que les médecins nous aident, les pharmaciens, mais que chacun soit responsable. Et on fera évoluer le pass pour qu'ils prennent en compte ce rappel, tous les plus de 65 ans qu'ils ne l'auraient pas fait, pour que le pass ne soit valable que si ce rappel a été fait. Mon souhait, c'est qu'on puisse ouvrir le plus vite possible ensuite ce rappel vaccinal, comme on l'avait fait pour la vaccination, par tranche d'âge, au moins 65 ans. Et quand je regarde aujourd'hui qui est dans les services hospitaliers, dans les situations donc les plus graves, à plus de 80%, je pars sous le contrôle de notre ministre, ce sont des plus de 50 ans. Et donc, il faut que pour les plus de 50 ans au moins, peut-être même en dessous, on puisse ouvrir à la vaccination.
La France est pour l'instant moins affectée que d'autres pays européens, comme par exemple l'Autriche, qui vient de décréter le reconfinement de toute la population et qui, par ailleurs, compte rendre d'ici quelques semaines la vaccination obligatoire. Mais en France aussi, la cinquième vague semble bel et bien là, avec plus de 21 000 nouveaux cas détectés hier et désormais plus de 4 000 classes fermées à travers le pays, un record depuis le retour des élèves lors de la rentrée au mois de septembre. Mais c'est à vrai dire en Outre-mer que la situation est la plus tendue, notamment en Guadeloupe où seulement un tiers de la population est vaccinée. L'île est agitée par de nombreuses manifestations, mais aussi par un appel à la grève générale lancé par la principale fédération syndicale du territoire. Un appel à la grève pour s'opposer à la vaccination obligatoire du personnel soignant, mais aussi à d'autres mesures sanitaires mises en place pour contrer l'épidémie. À Paris, le gouvernement a décidé d'envoyer 200 policiers et gendarmes en renfort, alors que la situation sur place est particulièrement abrasive. C'est beaucoup plus calme en revanche en Polynésie française. En Polynésie française, où le jeune Titouan Bernico, qui a 22 ans, plante depuis déjà 7 ans des boutures de corail destinées à remplacer les récifs ravagés par l'acidification des océans. Il a été invité tout récemment par l'ONU à s'exprimer à Genève dans le cadre du sommet des jeunes activistes. Titouan Bernico a notamment appelé les gouvernements qui œuvrent pour protéger l'environnement à ne pas oublier les fonds marins. Écoutez-le, il s'exprimait hier sur RFI.
C'est clair qu'on n'en parle pas assez. C'est là où Coral Gardeners, notre organisation, a eu le plus d'impact à travers la puissance des images. Avec par exemple en décembre 2019, une vidéo qui a fait 77 millions de vues sur Instagram. C'est une des vidéos dans le top 5 des plus visionnées de tous les temps sur Instagram et qui fait passer le message de bouturage de coraux, de l'importance du récif. Moi, ça fait 7 ans que je plante du corail. On a lancé le projet il y a 4 ans et demi. On a commencé, on était dans ma chambre avec quelques potes surfeurs et pêcheurs de mon île. Et aujourd'hui, on a nos propres scientifiques. Et en 4 ans et demi, on a planté plus de 15 700 coraux sur la partie nord de Mo'orea. On a aujourd'hui 3 grosses nurseries de super coraux avec le gouvernement de la Polynésie où on a 9000 coraux qui sont en train de grandir et on aimerait en planter 1 000 000 à l'horizon 2025 en ouvrant une vingtaine de branches à l'international.
Pour finir ce bulletin, on jette un œil à la météo de ce samedi en Australie. 28 degrés et du soleil aujourd'hui à Perth, 18 degrés et en revanche des averses à Adélaïde, 18 degrés aussi à Melbourne. Entre 23 et 26 degrés à Sydney où la journée va être humide. Grand soleil par contre à Brisbane, 31 degrés au thermomètre, 33 à Cairns et un étouffant 35 degrés à Darwin. Je vous laisse pour l'instant, on fait une courte pause et puis juste après on retrouve le journal des sports. C'est l'heure du magazine des sports et on commence tout de suite avec la Ligue 1 de football. Monaco et Lille, hier soir, se sont neutralisés sur le score de 2-2. Et dans les rencontres à suivre ce week-end, il y a ce qu'on appelle l'Olympico, c'est-à-dire Lyon qui reçoit Marseille ce dimanche. Mais dès ce soir, samedi, c'est le PSG, le Paris Saint-Germain, qui reçoit Nantes dans un contexte un peu particulier puisque le club vient de décider de suspendre les associations de supporters de la tribune Boulogne à un moment où on craint, en tout cas du côté de la direction du PSG, le retour de l'extrême droite chez les ultras parisiens. Et puis, autre désillusion pour les Parisiens, on pensait que la recrue espagnole de ce début d'année, Sergio Ramos, allait enfin jouer son premier match demain. Eh bien non, il est toujours indisponible pour raisons médicales. Et puis, dans le reste de l'Europe, deux autres rencontres à suivre de près. D'abord, le derby catalan qui va opposer l'Espagnol au FC Barcelone, à un moment où le Barça est en pleine déroute cette année, mais qui espère enfin sortir de l'ornière, et ce, notamment grâce au retour de l'une de ses anciennes gloires, Xavi. Xavi qui a tout gagné avec le FC Barcelone il y a une dizaine d'années, quand le club dominait l'ensemble de l'Europe. En tout cas, son ancien acolyte Andrés Iniesta, qui lui joue désormais au Japon, croit en lui et en sa capacité à sauver le club.
Xavi s'adaptera parfaitement, c'est sûr. Pas seulement grâce à sa connaissance du club, mais parce qu'il s'est aussi préparé pour ce rôle. C'est la chose la plus importante. Il y a Xavi, ce qu'il représente en tant qu'ancien joueur, mais il y a l'entraîneur et comment cet entraîneur s'est préparé pour relever ce défi.
Et puis, quant au principal intéressé, Xavi, donc, qui a quand même 41 ans, eh bien, il a fait savoir qu'il ne comptait pas passer tout son temps sur le banc et qu'il était toujours plus que jamais prêt à mouiller le maillot.
Je viens ici pour jouer. Je viens ici pour me battre, pour avoir une place, le droit de jouer. Ce n'est pas parce que j'ai fait l'histoire de ce club, ce n'est pas parce que j'ai une très bonne relation avec l'entraîneur, avec le président, avec le club, etc. Non, non. Je crois qu'avec mon travail, je pourrai continuer à faire tout ce que j'ai fait, me battre et essayer de contribuer de l'intérieur.
Et puis l'autre rencontre de football à ne pas manquer ce samedi, c'est ce choc en Première Ligue entre Liverpool et Arsenal, respectivement 4e et 5e au classement. Alors de la part de Liverpool, ça n'est pas très étonnant. Mais Arsenal, qui depuis quelques années évoluait plutôt en milieu de tableau, eh bien, a fait ces dernières semaines une très belle remontée, puisque au cours des 8 derniers matchs, le club londonien n'a enregistré aucune défaite. Et comme d'ailleurs l'a rappelé l'entraîneur, l'objectif avec ce déplacement à Liverpool, c'est bien d'y remporter la victoire. On écoute Mikel Arteta.
Les joueurs sont très confiants, ils sont en pleine forme. Ils savent que chaque rencontre est différente. On doit prendre les matchs les uns après les autres. C'est un marathon. La Première Ligue est une très longue compétition et on traverse différentes phases. Mais on doit évidemment maintenir notre bonne forme actuelle. Le mieux qu'on puisse faire, c'est de tout donner au plus haut niveau. On ne peut pas faire autrement dans ce championnat. On doit aller gagner ce match sur le terrain de Liverpool.
Ce week-end, il n'y a pas que du football, il y a aussi du rugby avec une série de test matchs et notamment le 15 de France qui va jouer contre la Nouvelle-Zélande avec des All Blacks qui joueront ce match au Stade de France en blanc. Et puis l'Australie, pour sa part, affrontera de son côté le Pays de Galles à Cardiff. Enfin, dimanche en Formule 1, il y aura le Grand Prix du Qatar. Le circuit actuellement est dominé par le Néerlandais Verstappen et c'est le Britannique Lewis Hamilton qui le seconde. Pour terminer, un mot de tennis et de la joueuse chinoise Peng Shuai, dont on est toujours sans nouvelles depuis qu'elle a accusé le 2 novembre dernier sur les réseaux sociaux chinois un ancien vice-premier ministre de l'avoir violée. La WTA, l'association du tennis féminin, a décidé de monter au créneau et menace la Chine d'annuler toutes les rencontres sportives prévues dans ce pays tant qu'on ne lui aura pas apporté la preuve que Peng Shuai est saine et sauve. Et depuis, de nombreux joueurs et joueuses professionnelles de tennis relaient sur leurs réseaux sociaux une photo de la joueuse chinoise sur laquelle est inscrit le message « Where is Peng Shuai ?» « Où est Peng Shuai ?» Voilà, le magazine des sports, c'est tout pour aujourd'hui. Le prochain numéro, ce sera dès demain.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Notre rubrique sonore à présent, nous sommes le 20 novembre, direction l'année 1947. La future reine d'Angleterre, Elisabeth II, épousait à l'abbaye de Westminster le prince Philip Mountbatten. Leur mariage dura plus de 73 ans jusqu'à la mort du roi Philippe, duc d'Édimbourg. Retour sur ce mariage donc du 20 novembre 1947, un événement qui, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, avait déchaîné une ferveur incroyable dans tout le Royaume-Uni, mais au-delà, la cérémonie était retransmise à la télévision. Une rétro sonore avec des archives de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel.
Ce 20 novembre 1947, dans le Royaume-Uni d'après-guerre, Elisabeth, future reine d'Angleterre, épouse celui qu'elle a choisi, le prince Philippe de Grèce et du Danemark.
Cette nuit, devant le palais de Buckingham, des milliers de Londoniens ont bravé le froid et l'ennui des heures vides pour être le jour venu au premier rang. Et quand Big Ben a sonné l'heure que l'Angleterre attendait, ils étaient plus d'un million pressés pour voir passer dans le carrosse de verre et d'or l'héritière du vieil empire en voile blanc aux côtés de son père, le roi. Aujourd'hui, en effet, sous le ciel de brume, qui est le ciel de Londres, la princesse Elisabeth, dont chaque Anglais connaît tout depuis ses mots d'enfant jusqu'à son roman d'amour, épouse le lieutenant de la Royal Navy, Philip Mountbatten, ex-prince de Grèce, et créé depuis hier duc d'Édimbourg.
La foule rassemblée en masse exulte. Cette journée d'histoire, c'est aussi le retour de l'espoir. À l'arrivée devant l'abbaye de Westminster, oubliez la guerre. Les Britanniques se remettent à rêver devant la robe de satin ivoire brodée de 10 000 perles et la triple traîne de tulle et de soie. Le pays vit encore en période de rationnement. Comme son peuple, la princesse a dû s'adapter.
La robe de la mariée subit les conséquences du rationnement des produits textiles. Et donc, la mariée doit présenter des coupons, future reine d'Angleterre, qui doit financer sa robe de mariée avec des coupons comme n'importe quel Britannique.
This man and this woman. La jeune Elisabeth a imposé à sa famille celui pour lequel elle a eu le coup de foudre 8 ans plus tôt. Elle n'avait alors que 13 ans. Philip Mountbatten n'a pas vraiment le pédigré parfait. Prince, certes, mais désargenté. Et ses sœurs ont épousé des nazis. Peu importe, sûre de son choix, la princesse l'épouse devant 5 rois, 5 reines et 200 millions de spectateurs qui suivent la retransmission télévisée.
On a la première cérémonie cathodique mondiale de la royauté. Il y en aura beaucoup d'autres par la suite.
Dans l'abbaye de Westminster, où depuis les plus anciens âges se déroulent les grands actes de l'histoire d'Angleterre, une foule où chaque visage porte un nom connu ou célèbre, va assister à la bénédiction qui, selon la vieille formule britannique, unira le couple aujourd'hui princier, demain royal, pour le meilleur et pour le pire. C'est entre deux haies formées par les plus grands noms du royaume, suivies d'une cour où l'on reconnaissait 5 rois, 5 reines et 6 princes et princesses royaux et les représentants de 40 nations, que les nouveaux mariés unis devant Dieu et devant la loi ont traversé l'abbaye historique.
À partir de ce jour de 1947, le couple princier incarne la modernité, l'avenir de la monarchie. Elisabeth ne le sait pas encore, mais elle sera couronnée 6 ans plus tard à la mort de son père.
Le peuple britannique, meurtri par les restrictions d'une crise inconnue, même en pleine guerre, semble trouver dans ce mariage doré une sorte de consolation et comme une revanche aux misères qu'il supporte. Il a fait aux jeunes mariés des cadeaux pris sur ses rations diminuées. Certains ont même donné pour le trousseau de la princesse leur coin textile. Cette famille royale qui l'acclame, c'est un peu sa famille. Cette radieuse épousée, c'est un peu sa fille aussi.
In the large staterooms are displayed the royal couple's wedding gifts. More than 1,000 presents have come from the British people, the Commonwealth and many foreign countries. From the diplomatic corps came a superb silver gilt dressing case. In another room are the display cases of rare china, crystal and porcelain. The central showpiece is an exquisite vase, the gift of President and Mrs. Truman. Princess Margaret gave her sister a picnic basket designed for 4 people. These are some of the gifts from the royal family. From her mother and father, the princess received a diamond and ruby necklace and a string of pearls. From her grandmother, a diamond tiara, bracelets, and a brooch. The gifts were a symbol of the goodwill the nation and the world felt for the young bride and her bridegroom.
Devant Buckingham Palace, la foule est plus dense encore que tout à l'heure. Le dernier carrosse rentré sous la voûte, elle rompt les barrages de police. Elle réclame l'apparition au balcon de la famille royale. Tout à l'heure, dans les salons du palais, comme dans toutes les familles du monde, le photographe officiel tirera la photo traditionnelle du groupe familial où l'on reconnaîtra à côté de la reine Marie, la sœur d'Elisabeth, la princesse Margaret Rose. L'Angleterre a désormais dans son imagerie populaire une nouvelle image. La future reine de Grande-Bretagne et le futur prince consort seront de tous ses actes, de toutes ses gloires et de toutes ses misères. Ils sont l'avenir britannique. Ils sont ces jeunes mariés unis à l'Angleterre pour le meilleur et pour le pire.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
On va passer maintenant à Europa Voice. Cette semaine, Nathanaël Bloch et Christophe Mallet nous parlent de la cinquième vague de coronavirus qui s'abat sur l'Europe. On l'a évoqué dans le journal tout à l'heure, l'Autriche est reconfite sa population. Il y a des mouvements de colère aux Pays-Bas. En France, pour l'instant, ça tient. Mais on va essayer de comprendre comment le virus peut ressurgir comme ça de façon aussi massive dans le continent le plus vacciné du monde.
Europa Voice numéro 89, et comme à chaque épisode depuis le début de cette série de podcasts Europa Voice, je suis avec Nathanaël Bloch. Bonjour Nathanaël.
Bonjour Christophe.
89 déjà, et on parle, il y a un vieil ami presque qui revient à la table de la négociation, de la discussion, c'est le Covid en Europe. Énormément de questions se posent sur la cinquième vague, ou est-ce que c'est vraiment une vague, ou qu'est-ce qui se passe-t-il aujourd'hui en Europe avec le Covid? Ça pose énormément de questions, ça secoue quand même pas mal le cocotier. Hein.
Hello darkness, my old friend. Effectivement, Christophe, on a le Covid et la pandémie de Covid-19 qui revient un peu partout dans le monde. Et pour ce qui nous intéresse, nous, au niveau de l'Europe et de l'Union européenne, c'est qu'il semble que malheureusement, l'Europe soit redevenue l'épicentre de cette pandémie de Covid-19. Et que on a notamment enregistré début novembre, la première semaine de novembre, entre le 1er et le 7, plus de 60%, Christophe, des nouvelles infections de Covid-19 diagnostiquées dans le monde, et environ 55% de tous les décès liés à la pandémie. Et selon une source très officielle, puisque c'est l'Organisation mondiale de la santé, OMS, qui a déclaré ça et qui donc, met les projecteurs de manière un petit peu tragique sur le continent européen par rapport à ce retour de la pandémie de Covid-19.
Alors, j'allais poser la question brute, hein. Comment c'est possible ? Il y a des chiffres de vaccination qui sont quand même respectables en Europe. Où est-ce que le problème est là ? C'est que même si on atteint du 65-70%, on n'atteint pas le chiffre clé du 80% de la Pareto Law ou du 90%. Et ça, peut-être ça prouve qu'il est quand même nécessaire de faire peut-être une campagne comme l'Australie l'a très bien faite. En fait, on a beaucoup critiqué l'Australie sur la stratégie vaccinale, mais globalement, ça s'est passé très vite à partir du moment où on a décidé de se mettre en action pour atteindre des chiffres qui peut-être pourrait protéger la population australienne et ne pas voir ce qui se passe aujourd'hui en Australie, en Europe. Est-ce que c'est vraiment là la clé, à votre avis ?
Je dirais, Christophe, qu'on a peut-être un peu le revers de la médaille, finalement, des bénéfices de la vaccination, dans un sens où, comme on a un petit peu peut-être mis dans la tête des gens, mais même en matière de communication publique, communication politique, que la vaccination était la solution pour arrêter cette propagation de Covid-19, on a certainement eu, si vous voulez, deux choses. D'abord, on a eu un relâchement des mesures de contrôle, c'est-à-dire qu'il y avait quand même un peu un sentiment d'immunité presque par rapport au fait qu'on soit vacciné. Donc, c'est-à-dire qu'on est vacciné et donc à côté de ça, on voit bien, il y a des mesures de contrôle qui sont complètement relâchées. Et c'est pour ça d'ailleurs que le président Macron a remis une couche sur ces mesures de contrôle. Donc ça c'est le premier aspect, c'est le revers de la médaille de la vaccination et des taux importants de vaccination, c'est qu'à côté on a un petit peu relâché tout ce qui était mesures de contrôle. Et le deuxième élément, Christophe, qui va avec ça, c'est que il y a quand même des limites à la vaccination. C'est-à-dire que la vaccination seule, elle ne suffit pas. à côté de cette vaccination-là, vous devez quand même avoir le respect des gestes barrières, vous devez avoir un tas, j'allais dire, de mesures annexes conjointement à cette couverture vaccinale, bah pour que votre épidémie elle baisse, si vous voulez, pour juste prendre une comparaison, c'est un peu, si vous voulez, comme avec la grippe, vous allez quand même faire, il y a des taux, il y a des campagnes de vaccination contre la grippe, mais après vous allez quand même faire attention de ne pas sortir en t-shirt en plein hiver. Alors c'est un exemple un petit peu tribal pour comprendre, mais pour le Covid-19, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que la vaccination, elle protège, et ça, tout le monde est d'accord que d'ailleurs, les cas graves, la plupart des cas, les rentrées en hôpital sont le fait de personnes qui ne sont pas vaccinées. Donc, ça protège, c'est effectif, il n'y a aucun doute sur ça. Maintenant, à côté de ça, il faut ces mesures, j'allais dire, secondaires, annexes, ben, pour qu'on n'ait pas une nouvelle vague de l'épidémie comme on est en train de le voir actuellement en Europe, Christophe.
Est-ce que on voit, quand on regarde une carte, hein, on sent vraiment que c'est une vague, si on parle de vague, qui vient de l'Est. Hein, on sait qu'il y a une crise sanitaire en Russie qui est presque incroyable. Et puis, il y a toute une vague qui est donc à l'Est avec des pays comme l'Allemagne, l'Autriche qui sont énormément touchés. D'ailleurs, l'Autriche qui a reconfiné ses non-vaccinés. Est-ce que la solution, elle est là aussi pour un pays comme la France, par exemple? Est-ce qu'on se pose la question en France? Alors, je sais que les journalistes posent la question en France, mais est-ce que dans les gouvernements, dans les sphères des dirigeants, on se pose la question de se dire, bah, si vous n'êtes pas vacciné, il faudra peut-être repasser par un reconfinement, certainement dans les mois d'hiver?
Alors, il y a ce qui est dit, Christophe, en politique, comme souvent, et ce qui n'est pas encore dit, ou ce qui est à dire. Ça a été rappelé, je crois, par le porte-parole du gouvernement cette semaine, Gabriel Attal, que à l'heure actuelle, il n'y a pas la question d'un reconfinement n'est pas à l'ordre du jour. Mais de manière générale, en politique, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, mais surtout, on a vu, à part ce petit mot d'humour, on a vu qu'avec le Covid, c'était très difficile aussi, non pas d'avoir une position arrêtée, mais d'avoir une position, j'allais dire, qui n'évolue pas, parce que c'est une situation qui est un petit peu inédite, même si maintenant on en est à la cinquième vague, on est 2 ans après le début de l'épidémie, on a encore plein de données, plein de choses qu'on maîtrise pas. Donc, j'allais dire, pour l'instant, officiellement, c'est quelque chose qui n'est pas considéré, mais on sait jamais et on n'a pas encore. Faut savoir aussi que là on parle de vagues en Europe, hein, d'une Europe dans la tourmente qui redevient ce moteur de la pandémie, mais qu'on verra vraiment le pic de cette vague là, ça selon tous les spécialistes, environ aux vacances de fin d'année. Donc c'est à dire qu'on a encore très peu, j'allais dire, de recul par rapport au pic que va atteindre cette vague et donc aux mesures qui pourraient en découler. Donc ça c'est le premier point. Après, Christophe, le deuxième aspect, c'est comme vous l'avez dit, on parle de cette vague européenne, mais cette vague européenne, elle est très protéiforme sur le continent européen. Vous l'avez mentionné, il y a une crise sanitaire en ce moment, des regroupements à l'Est, ce qui n'aide évidemment pas à contenir cette vague. Il y a aussi les conditions météorologiques qui sont plus froides que dans les pays du sud de l'Europe, par exemple. Donc, on a ce qu'on peut rappeler les mauvais élèves de l'Europe, ou en tout cas ceux qui s'en sortent pour l'instant le moins bien, qui sont les pays de l'Est. Après, vous avez un deuxième groupe, que sont les pays plutôt du Sud, Espagne, Italie, Portugal, même France, dans une certaine mesure, où là, on a un taux de vaccination qui a bien évolué. On avait eu des confinements parfois un peu stricts. Et puis, on a aussi ce facteur température qui fait que peut-être jusqu'à présent, ces pays-là ont été un peu plus épargnés que d'autres pays. Après, on a les pays, un troisième groupe, on a les pays d'Europe du Nord, où là, on a une épidémie vraiment qui repart en flèche. Et chose intéressante aussi, c'est que pour ces pays de l'Europe du Nord, on a des cas, qui vont faire jurisprudence, parce qu'on a certains pays qui vont, par exemple, instaurer des passes vaccinaux pour la première fois. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a aussi pas de recul sur l'acceptation par la population de décisions politiques par rapport au Covid. C'est le cas notamment de la Suède, où à partir du 1er décembre, il y aura un pass vaccinal, mais pour la première fois pour les événements de plus de 100 personnes. Et puis on a de manière assez étrange, on a le Royaume-Uni où on a un taux d'infection qui lui plafonne à un niveau élevé mais qui est stable. Très difficile, j'ai essayé de trouver des informations sur cette raison et cette ce particularisme anglo-saxon qui n'est certainement pas lié, malheureusement, je pensais que vous l'espériez, Christophe, au Brexit, mais on a peut-être simplement une population qui a eu moins d'interactions sociales, qui s'est elle-même plus auto-limitée et qui explique qu'on a un taux élevé mais qui est finalement relativement stable. Mais bon, encore une fois,
il y a aussi la nature du vaccin chez les Britanniques, parce qu'ils ont été majoritairement vaccinés avec l'AstraZeneca, alors qu'en fait en Europe c'est plutôt le Pfizer qui a prédominé quand même. Et il y a aussi un changement, c'est un différent vaccin, une différente protection.
C'est, non, mais tout à fait. C'est aussi, une question de, j'allais dire, de couverture vaccinale et de quel vaccin a été utilisé. Vous avez raison, au Royaume-Uni, c'est l'AstraZeneca qui a été utilisé de manière différente du reste de l'Europe, où on avait plutôt des paniers de vaccins ou des mix de vaccins, qui peut-être aussi expliquerait ça. Mais voyez, en tout cas, ce qui est aussi à prendre en compte, c'est que même sur ces questions de vagues, on a quand même des situations qui sont très différentes en Europe. Un pays dont on ne parle pas parce qu'il ne fait pas partie de l'Union européenne, mais c'est la Suisse, où là, pour le coup, on a un taux de vaccination qui est pas extrêmement élevé, et on a une épidémie qui repart en flèche. Et important, c'est qu'on a c'est un pays quand même qui est vraiment imbriqué au cœur de cette Europe, au cœur qui n'est pas dans l'Union européenne, mais qui est au cœur de l'Union européenne. Donc, va se reposer quand même à un moment, Christophe, cette question aussi des frontières. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que pour l'instant, officiellement en France, on ne parle pas de reconfinement, mais la situation va certainement évoluer et les discours et les actes politiques et la traduction en actes politiques de la situation sanitaire va aussi cette traduction certainement évoluer dans les prochaines semaines en fonction de cette vague européenne.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Tout de suite, on retrouve Christophe Mallet, avec qui on va parler du peintre Henri Matisse. Une exposition lui est actuellement consacrée à Sydney, à l'Art Gallery of New South Wales. On en parle avec Aurélie Verdier, elle est conservatrice au Musée d'art moderne du Centre Pompidou à Paris. Je vous propose la première partie de cet échange, la suite, vous l'entendrez demain.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Allez, aujourd'hui sur Radio SBS, on va parler d'art et on va parler d'une exposition qui arrive à Sydney avec Aurélie Verdier. Vous êtes conservatrice à Paris au musée donc d'art moderne, c'est Centre Pompidou.
Oui, c'est exact, absolument. Depuis 2018 et je suis très heureuse d'être parmi vous et de parler de cette très très belle exposition Matisse Life and Spirit qu'organise l'Art Gallery of New South Wales. Je la verrai de loin, ce qui est un petit peu triste, mais en même temps, j'étais évidemment très impliquée dans ce travail avec Justin Payton et Jackie Dunn. C'était une expérience formidable, absolument, à tout point de vue.
Ouais, alors parlons un petit peu de Matisse et de son travail et de comment cette exposition, comment on emmène Matisse à Sydney. Donc si on parle de l'homme en lui-même au départ, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu l'homme, son œuvre, qui était Matisse?
Oh, en quelques mots, c'est un peu compliqué parce que c'est évidemment l'un des artistes absolument majeurs du XXe siècle et peut-être encore au XXIe siècle, il a des choses à nous dire, mais Matisse est un homme du nord de la France, c'est un homme du nord. Il est né au Cateau-Cambrésis en 1869, le dernier jour de 69, et il meurt à Nice en 1954. Donc voilà, il commence sa vie au nord, il la finit au sud, et une grande partie de sa vie va se passer dans la lumière de la Méditerranée, hein, dans le sud de la France, à Nice notamment. Voilà, et une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, parce que Matisse est à la fois un artiste de l'atelier, de la maison, de l'intériorité, et en même temps un artiste qui va être voyageur, hein. Il va partir à Tahiti en 1930 et ça, ce sera très important, hein, l'envie d'une autre lumière, d'un autre hémisphère. Donc, c'est comme pour tous les grands artistes, un artiste double, un artiste des polarités, voilà, intérieur, extérieur, intime et en même temps sachant parfaitement ce qu'il faisait pour que sa carrière aussi soit à l'image de celle de son grand rival Picasso. Il y a beaucoup de choses à dire. dire. Mais c'est évidemment l'un des plus grands créateurs de formes au XXe siècle, capable encore aujourd'hui, je crois, d'inspirer les artistes.
Comment on emmène des œuvres qui sont précieuses, qui ont une valeur inestimable pour le patrimoine français, et comment on décide de pouvoir emmener ça à l'autre bout du monde ? Ça a l'air quand même d'une certaine complexité. C'est pas si simple que ça.
Oui, vous avez parfaitement raison. C'est tellement complexe qu'en fait, c'est une aventure, si je peux dire, qui entraîne des dizaines et des dizaines de personnes, hein, aux qualités diverses. Moi, je m'occupe vraiment du versant, on va dire, scientifique, hein, de l'expo, c'est-à-dire de son contenu, de l'histoire de l'art. Hein. Nous l'avons conçu avec Justin Payton et Jackie Dunn. C'est vraiment ce côté-là. Après, effectivement, la coulisse d'une telle entreprise. D'abord, c'est des années de travail. Ça fait très longtemps que le Centre Pompidou avait le souhait que cette collection Matisse, qui est exceptionnelle, hein, qui peut rivaliser finalement avec celle du MoMA ou celle des musées russes. Voilà, le Centre Pompidou avait le souhait qu'elle soit connue, qu'elle soit montrée, qu'elle soit partagée aussi. Et en Australie, ça faisait extrêmement longtemps que Matisse n'avait pas été montré. C'est même une première à Sydney. Voilà. Et peut-être pour vous répondre, c'est effectivement une entreprise, si je puis dire, qui prend beaucoup d'années. Ouais, absolument. Ajoutez à ça qu'une pandémie mondiale aura compliqué énormément les choses, bien sûr. Voilà, et c'est un petit miracle qu'elle ait lieu aujourd'hui à Sydney, c'est vrai.
Ouais, tout à fait. Et c'est d'autant plus important qu'il faut vraiment aller la voir, parce que c'est, comme vous le dites, ça fait première fois à Sydney, donc pour le public de la Nouvelle-Galles du Sud, et on se rend que compte à quel point c'est un artiste majeur pour la France. Est-ce qu'aujourd'hui, au sein du Centre Pompidou, c'est un artiste qui est peut-être un des artistes les plus vus, les plus préférés par rapport au public?
Oh oui, j'ai presque envie de dire que d'une certaine manière, c'est peut-être l'artiste que le public recherche en tout premier lieu, parce que il y a des œuvres absolument iconiques dans cette collection, le public le sait, et il y a quelque chose chez Matisse, de manière presque éternelle, j'oserais dire, qui est ce réconfort, cette sérénité, cette plénitude que recherchait l'artiste. Hein. C'est pas seulement la manière dont le public le reçoit, c'est que c'était vraiment un projet artistique, hein, chez Matisse, de produire en fait sur le spectateur, sur celui qui regarde, un art du réconfort, presque, j'ai envie de dire, un art thérapeutique. Donc dans des temps extrêmement troublés comme le sont les nôtres, je crois que l'art de Matisse a évidemment encore beaucoup, beaucoup à nous dire. Et ce qui est étonnant chez Matisse, c'est que c'est à la fois un art extraordinairement sensoriel, hein. On n'a pas besoin de beaucoup de connaissances pour l'apprécier. On peut l'aimer très vite, simplement se laisser porter par la vision que son art procure. Et en même temps, c'est évidemment un art aussi de l'intellect, hein. C'est ces polarités dont je parlais au début, hein. Il est capable d'être cet artiste dont on reprochait un goût trop fort de l'analyse, hein, quand il commençait à ses débuts, hein, au début de sa carrière. Et dans le même temps, il est cet artiste, voilà, extraordinairement sensuel, sensoriel. Et le public le sait. Donc oui, je le pense de manière très forte. C'est certainement l'un des artistes, sinon l'artiste préféré du public, oui, qui vient au Centre Pompidou, certainement.
Si on parle de sa carrière, comme tous les artistes, hein, il y a eu plusieurs périodes, plusieurs courants. C'est pas que de la peinture, il y a la sculpture, il y a d'autres modes d'expression. Comment vous analysez, vous, son cheminement artistique sur toute sa vie?
Je dirais sous le signe d'une très grande continuité, que les ruptures en fait importantes dans sa vie ne contredisent pas. Il n'y a pas de contradiction aux deux. C'est-à-dire que le Matisse peut être un peu plus besogneux, hein, puisqu'il a une formation très longue, très humble, hein, en quelque sorte. Il n'est pas cet artiste né avec des pinceaux dans les mains comme Picasso, hein, si je puis dire. Donc c'est un travailleur, Matisse, hein. Hein. Il tient ça d'ailleurs de son milieu, de là où il est né. Hein. On travaille dans le Nord et c'est quelque chose qu'il gardera toute sa vie. Donc même quand il est ce maître célébré dès 1905-1908, hein, après le scandale du fauvisme, Matisse est quelqu'un qui va remettre son ouvrage en permanence. Il va rejouer les choses, se mettre en danger. Hein. C'est pas un art confortable malgré les apparences. Hein, encore une fois. Donc voilà, je dirais que c'est cette alternance en fait de temps de repos en quelque sorte dans son art, quand précisément il sait qu'il maîtrise quelque chose, et puis ensuite de rejouer tout. Alors ça peut être un voyage, comme de partir en effet à Tahiti, ça peut être d'aller vers un autre médium, une autre technique, hein, vous l'avez bien dit, il est sculpteur, il est un dessinateur absolument considérable, hein, on sait bien l'importance du dessin dans sa pratique. Les gouaches découpées vont être encore une dernière technique à la fin de sa vie finalement, où l'artiste va réussir cet exploit, je dirais, à réunir la question du dessin et de la couleur, puisque les ciseaux dessinent dans la couleur. Hein. Elle attaque la couleur directement à même la feuille. Donc ça, c'est Matisse résumé en quelques mots, mais c'est compliqué évidemment de le résumer comme ça si rapidement, mais je crois qu'il y a de ça dans ce que je tente de vous expliquer.
Vous nous parlez que Matisse a eu cette relation avec Tahiti, donc la Polynésie française. Il y a un autre peintre français, c'est Gauguin, qui a été beaucoup marqué par la Polynésie française. Est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux? Comment on peut juger ou jauger leur approche par rapport à cette Polynésie française à chacun?
Je pense que les rapports sont tout de même différents. D'abord, Matisse va regarder Gauguin durant ses années de formation et de jeune peintre au tournant du siècle, autour de 1900. Matisse a une bonne connaissance de Gauguin et à certains moments, même je dirais de son œuvre, il y a un regard délibéré vers la peinture de Gauguin. Par ailleurs, il connaît aussi Daniel de Monfred, hein, qui est un proche de Gauguin, avec qui il va même tirer les gravures de Noah Noah de Gauguin. Donc il y a une connaissance assez intime de Gauguin. Après, dans un second temps, quand Matisse entreprend ce voyage en 1930, il sait qu'il va sur les traces de Gauguin là aussi, mais je pense que c'est fait dans un état d'esprit tout différent, parce que Gauguin s'installe là-bas quand Matisse en fait envisage un voyage de quelques semaines. Alors c'est quand même très très différent. Je pense que la volonté n'est pas la même. Hein. Aujourd'hui d'ailleurs, c'est plutôt de Gauguin dont on peut éventuellement stigmatiser des comportements éventuellement d'emprise. Hein. Je vais pas rentrer dans les détails, mais donc ça c'est tout à fait différent pour Matisse, qui est piloté, si je peux dire, par des amis qui résident là-bas, qui résident à Tahiti. Il a vraiment une autre conception de ce voyage, qui n'est pas destiné à être très long. Par ailleurs, il faut dire une chose, c'est que là-bas, il se retrouve finalement à très très peu produire. Quelques croquis, quelques photographies amateurs. Il n'arrive pas particulièrement à... Il savoure ce qu'il voit. Il s'en imprègne de manière tout à fait caractéristique chez lui, mais c'est bien plus tard, mais vraiment bien plus tard, je dirais même plusieurs années plus tard, qu'il sera capable en fait de faire ressurgir des profondeurs, on a presque envie de dire inconscientes, les motifs de ce voyage. Hein, quand on pense à Océanie, les deux panneaux d'Océanie qu'il va réaliser dans les années 40, ou alors Polynésie, la mer et le ciel, que vous pouvez voir dans l'exposition à Sydney, hein, qui sont absolument somptueux, qui sont des gouaches découpées, des grandes gouaches découpées bleues et blanches. On voit bien que c'est fait en fait plus de 16 ans après le voyage. Hein, donc c'est comme si finalement le motif du lagon, tous ces motifs polynésiens ressurgissaient des années après. Et ça, cette maturation là par l'assé de Matisse.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
C'est
C'était donc la première partie de cet entretien avec Aurélie Verdier, conservatrice au Musée d'Art Moderne du Centre Pompidou à Paris, à propos de cette nouvelle exposition Matisse, qui vient d'ouvrir à Sydney. On écoutera la suite de cet entretien demain. SBS en français, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte sur ce morceau de Juliette Armanet qui s'intitule « Le dernier jour du disco ». Nous, notre prochain rendez-vous en direct, ce sera demain à 13h précise. Mais vous pouvez aussi nous écouter en podcast directement sur notre appli SBS Radio ou bien sur votre appli de streaming audio préférée, Deezer, Spotify. Nous sommes présents partout. Je vous souhaite un excellent après-midi et je vous dis à très bientôt.
Entendre d'autres rubriques comme celle-ci, écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.